Nous allons parler des élections américaines, de ce super mardi. Nous allons faire de la pédagogie. On va essayer de comprendre finalement ce qui va se profiler maintenant que nous savons que les deux candidats favoris vont probablement être investis. Je parle évidemment d'Hillary Clinton et de Donald Trump. Il est 7h41 sur France Culture.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Trois regards sur les élections américaines. Tout d'abord celui de Jack Lamar. Bonjour, vous êtes journaliste, notamment au Times. Vous êtes également écrivain. Vous avez notamment publié Postérité. Vous vivez en France, mais vous suivez évidemment de très près ces élections présidentielles américaines. Constance Borde, bonjour. Vous êtes représentante en France du Parti démocrate. Et enfin, Anne-Elisabeth Moutet. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire américain The Weekly Standard et éditorialiste à l'hebdomadaire anglais The Sunday Télégraphe. Constance Borde, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce super mardi ?
Super mardi, c'est la journée où il y a le plus d'États qui votent en même temps et où on a la possibilité de ramasser le maximum de délégués ou de gagner le plus de points, si on veut, vers l'élection.
Alors, le système est donc de faire voter chaque État par rapport donc aux deux partis, afin de donner l'investiture à une personne dans chaque camp. Il y a un vote qui est proportionnel à la population de chaque État et il y a donc au terme de cette procédure, Anne-Elisabeth Moutet, un cortège électoral qui va se rassembler en quelque sorte dans chaque camp.
Oui, alors en théorie, le Super Tuesday ne plie pas entièrement le processus des primaires qui, pour chaque parti, permet de choisir un candidat, mais il n'y a pas d'exemple dans l'histoire des élections américaines depuis 40 ans que le candidat qui est arrivé premier après Super Tuesday n'ait pas gagné l'investiture de son parti. Ça ne veut pas dire qu'il gagne les élections ensuite en novembre, mais ça veut dire que c'est lui qui se présentera à l'élection nationale en novembre. Et donc, du côté républicain, il y avait les différents candidats républicains, dont les plus importants sont évidemment, dans l'ordre, Donald Trump, Ted Cruz et Marco Rubio. Et puis, chez les démocrates, c'est beaucoup plus simple chez eux, parce que essentiellement ils ont deux candidats. Et même si Bernie Sanders, le candidat que je pourrais appeler front de gauche américain, a eu des succès surprenants, c'est-à-dire non seulement son propre État, mais trois autres États colorés à gauche, le Colorado, l'Oklahoma et le Minnesota, il est très peu probable que ce soit lui qui ait l'investiture. C'est pas impossible, mais il est très peu probable que ce soit lui qui ait l'investiteur. Mais de toute façon, les deux grands gagnants sont Trump et Hillary Clinton.
Jack Lamar, un commentaire.
Oui, et il y a aussi comme l'élection générale, ce n'est pas simplement une question de voix populaire aux États-Unis. Dans l'élection générale, c'est l'électoral collège qui compte, et pour les candidatures, c'est les délégués, c'est les gens. Donc, il y a un système un peu différent pour les démocrates que pour les républicains. Dans le Parti démocrate, il y a quelque chose qui s'appelle le super délégué. C'est-à-dire surtout les politiciens, les gouverneurs, les sénateurs qui représentent des États différents. Il y a, je pense, 500 super-délégués et presque tous les super-délégués sont déjà déclarés leur fidélité à Hillary Clinton. Donc, dans le compte de délégués normal, Hillary Clinton est bien en avance de Bernie Sanders, mais elle a encore 500 voix déjà déclarées pour elle. Donc, ça serait bizarre si Hillary ne gagne pas.
Oui, mais à la différence près que les super-délégués peuvent changer leur vote. Les gens qui sont élus hier soir, les délégués qui étaient donnés hier soir, ne peuvent pas changer. Ils donnent une préférence pour un candidat et il faut qu'il reste avec cette voix, ce vote.
Et c'est une question effectivement qui se pose, puisqu'on l'a entendu dans les commentaires précédents, notamment dans la revue de presse internationale. Il y a beaucoup de républicains qui sont, comment dire, hostiles à la candidature de Trump, et même peut-être plus que ça, qui sont un peu effarés par cette situation. Ceci se demande comment il serait possible de faire barrage à cette candidature. Le mandat donné aux grands électeurs est-il un mandat impératif, Anne-Elisabeth Moutet ? Est-il possible que ces grands électeurs fassent en quelque sorte une fronde et finalement ne désignent pas Donald Trump ?
Alors, rien n'est jamais exclu, mais c'est pas impossible, mais c'est vraiment, ça serait vraiment un coup de tonnerre et ça serait un coup de tonnerre difficile. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir cette différence entre le Parti démocrate et le Parti républicain. Le Parti démocrate, quelque part, il y a tout de même un système de commandite par action, si on peut dire, avec des gens qui sont plus égaux que les autres. Et ça résume d'ailleurs assez la candidature totalement establishment de Hillary Clinton, alors que Hillary Clinton, elle fait face à un électorat qui considère que malheureusement elle est la candidate. C'est pas quelqu'un qui est aimé aux États-Unis. C'est quelqu'un dont on reconnaît certainement la compétence, mais c'est quelqu'un sur laquelle Ed Klein, un ancien rédacteur en chef de Newsweek, a pu écrire un livre entier qui s'appelle Unlikable, c'est-à-dire pas aimé, et en expliquant pourquoi elle est vue comme quelqu'un qui a déjà été là, qui considère que ça lui est dû d'une manière pratiquement pas héréditaire, mais enfin du fait qu'elle a passé en tant qu'épouse du candidat 8 ans à la Maison Blanche, et elle fait suite à une administration l'administration Obama, où ce qu'elle a fait, c'était pas les choses qui ont eu le plus de succès. Je vais pas lancer les arguments de Trump et des autres sur l'assassinat d'ambassadeur américain à Benghazi, mais ou les histoires de ses emails
relatifs notamment à ses emails. Il faut rappeler cette histoire, Annelise.
Alors, les emails, c'est même une chose importante. Oui, les emails, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'elle avait fait installer dans sa maison un serveur personnel, clinton.org, je crois, et elle a envoyé quelque chose comme 30 000 emails, qui sont des emails de travail, dans un système non sécurisé, et elle en a détruit un certain nombre quand on lui a demandé de les produire. Alors, ça fait tout de même assez mauvais effet. Bernie Sanders
a mis en doute, oui. Du coup, et on continue d'ailleurs à le faire, et Donald Trump, évidemment, ne se prive pas, oui, de le faire, on a mis en doute, en quelque sorte, son sens des responsabilités.
On a mis en doute des aménagements avec la lettre de la loi qui sont un peu bizarres. Il n'y a pas que les emails, il y a des choses qui remontent à l'époque où son époux était gouverneur de l'Arkansas. Il y a une histoire d'immobilier où elle a fait un aller-retour qui lui a rapporté à peu près 50 000 euros, je ne sais plus à l'époque, enfin c'était beaucoup d'argent il y a 30 ans. Il y a l'affaire Whitewater, il y a des collaborateurs qu'on a laissé aller en prison pour des trucs en col blanc où visiblement il prenait la responsabilité pour elle. Il y a des gens de la Maison Blanche, une personne de la Maison Blanche qui s'est suicidée. Enfin, elle a tout de même une carrière pas drôle. Et je veux dire, si on veut ne pas être polémique et ne pas citer les éléments de politique que j'ai cités à l'instant, il y a aussi le fait que c'est elle qui a été l'architecte de la politique du reset avec la Russie, dont on sait parfaitement qu'essentiellement elle a permis à Poutine de manger la laine
en
sur le dos à tout le monde.
En quoi consistait-elle, cette politique ?
Alors, la politique du reset, ça consistait à aller voir, comme d'ailleurs tout le monde dans l'administration Obama, à aller voir des gens qui ne sont pas des enfants de cœur et les traiter comme si c'était des enfants de cœur. On a fait ça avec les printemps arabes et on a certainement fait ça avec Poutine en disant les relations n'étaient pas si bonnes avant, mais on va établir d'excellentes relations avec vous et dans ce but, on va essentiellement vous donner ce que vous voulez et c'est ce qui s'est passé.
Jack Lamar.
Oui, mais malgré tous les scandales autour de Clinton, parce que c'est Bill aussi,
oui,
malgré sa faiblesse en tant que candidat, si elle gagne la nomination, et je pense qu'elle va le gagner, il y a très peu de gens qui vont voter contre Hillary à cause de tous ces scandales. Moi, je pense qu'il y a 45% d'Américains qui vont voter pour le démocrate, soit Hillary, soit Bernie Sanders. Donc, elle commence avec 45%. Donc, le défi est d'aller jusqu'à 51%. Mais il y a personne qui sera persuadé contre Hillary à cause de ces scandales.
Malgré tout, Jack Lamar, le fait que Bernie Sanders remporte 4 États dans ce Super Tuesday montre qu'Hillary Clinton n'est pas quelqu'un de populaire.
Elle est plus populaire que Bernie Sanders et Hillary Clinton. Il y a toujours une lutte dans le Parti démocrate. Hein. En 2008, c'était Barack Obama contre Hillary Clinton. C'est un parti qui aime les bagarres, mais à la fin, les démocrates sont unis derrière un candidat.
Constance Borde, vous qui représentez le Parti démocrate ici.
Surtout cette fois-ci, je dois dire qu'il y a une grande unité entre les deux candidats. On va en parler dans quelques minutes, mais cette question de likability, c'est drôle.
Likability. De fait d'être aimé, je ne sais pas comment traduire ça précisément d'ailleurs. En
France, on ne veut pas les aimer. On n'aimait pas Mitterrand, on l'admirait, mais on n'aimait pas...
en Amérique, il faut...
Et Chirac, on l'a aimé quand il n'a plus été président.
En Amérique, il faut aimer le candidat. Il faut que le candidat soit quelqu'un qu'on peut emmener chez soi, boire une bière. En Amérique, les standards sont un peu différents.
Mais c'est quelque chose quand même d'assez étonnant ce que vous dites, parce que lorsqu'on lit le New York Times, il y a très peu de portraits psychologiques des candidats au présidentiel. Ça n'est pas véritablement un registre dans lequel les journalistes américains, en tout cas les journalistes de la presse de référence, sont à l'aise. Alors qu'en France, si vous lisez par exemple Le Monde, vous avez énormément de portraits psychologiques des individus.
Alors, c'est pas tout à fait vrai. La presse américaine est encore une presse qui a de l'argent à dépenser en reportage pur, et elle en met énormément. Mais dès qu'on fera, on va dans les magazines et les trucs un peu plus consacrés à la politique, il y a des portraits remarquables. Celui qui est de référence, c'est le magazine Le New Yorker. Et vraiment, si on lit Le New Yorker, qui a évidemment de la place de mettre 10, 15, 20 pages sur un candidat, on a vraiment des portraits à la fois toute l'histoire, des choses psychologiques. Il y avait des choses très intéressantes sur Rubio, et pas spécialement d'ailleurs sympathique dans le New Yorker. Il y en avait sur Trump depuis des années. Et tout ceci est disponible dans des archives en ligne non payantes, même quand souvent c'est payant pour le reste. Ce qui fait que les gens ont tout de même de quoi se... S'ils veulent, il y a de quoi se faire une opinion sur les candidats et qui y sont.
Constance Bord, le score de Bernie Sanders est-il une surprise? Est-ce qu'il y a en quelque sorte une explication dans le fait que cet homme qui se présente comme socialiste atteigne aujourd'hui ce résultat?
Ce n'est pas étonnant parce qu'il est tout à fait qualifié et c'est tout à fait quelqu'un qui a apporté quelque chose au Parti démocrate. Il est très très respecté dans le parti. Mais je veux dire une chose, c'est que à partir de l'élection que nous avons eue la semaine dernière en Caroline du Sud, Bernie Sanders menait. Il avançait très bien. Et Hillary Clinton était déstabilisée un tout petit peu. Et elle ne trouvait pas exactement le chemin, le bon mot, comment attirer le public. Et je pense que tout le monde remarque qu'elle a trouvé une autre voie depuis Caroline du Sud, une voie très assurée, beaucoup plus likable, beaucoup plus attirante pour le public. Et il y a un changement dans l'air. Maintenant, avec les états qu'elle a ramassés aujourd'hui et hier, je pense qu'on va avoir une autre personnalité.
Mais dans le Parti démocrate, il y a toujours ou très souvent un candidat qui représente le rêve de la gauche. Il y avait Jesse Jackson, il y avait Howard Dean. En fait, Barack Obama était ce candidat en 2008. Bernie Sanders, c'est ce candidat. Il représente le rêve d'une Amérique gauchiste qui n'existerait jamais. Et comme Bernie Sanders parle d'un système de la santé comme le système qui existe en Europe, c'est un rêve, ce n'est pas une réalité.
Oui,
américain, quand il parle de l'éducation libre, gratuite pour tout le monde, c'est ridicule, franchement. Ça n'existerait jamais aux États-Unis. Mais c'est le rêve qui est très attirant pour les démocrates, et comme la plupart des candidats comme ça, il va perdre.
Constance Bourne.
Oui, mais il redonne une idéologie au parti qu'il avait perdu depuis bien longtemps, depuis les années 90. Le Parti démocrate est viré très à droite, ou c'est-à-dire au centre, et ce n'est pas où le Parti démocrate devrait être. Hillary Clinton, le discours de Hillary Clinton hier soir et le discours de Bernie Sanders étaient identiques hier soir. Hillary Clinton n'était pas cette personne il y a 3-4 ans.
Il a contraint... Effectivement, oui. Hillary Clinton a gauchir son discours à Elisabeth Moutet.
Alors moi, je voudrais rappeler que Hillary Clinton, en 94, a été mandatée par son mari, alors président, pour préparer un système de réforme du système de santé qui aurait été bien plus efficace que l'Obamacare, qui a finalement été voté avec tant de difficultés.
À l'époque, pourtant, il était très largement critiqué par les conservateurs.
Il a été totalement critiqué parce que c'est pas dans la culture politique américaine. Mais il y a une chose qui est certaine aussi, c'est que Bernie Sanders, à la différence de Hillary, il est extraordinairement sympathique. C'est un monsieur poli, courtois, qui dans un débat a dit, écoutez, j'ai pas envie de me baisser à vous attaquer comme ça, quand il était contre donc sa rivale Hillary Clinton. C'est quelqu'un qui a été un bon maire de sa ville dans le Vermont avant d'être un bon sénateur de son état, et il apporte une espèce de dimension d'idéalisme poli qui ressemble plus à une vie politique apaisée paradoxalement pour un candidat aussi gauchiste, que ce qui se passe maintenant dans le reste de la campagne. Je crois que c'est pour ça que les gens l'aiment bien.
On va évoquer à 8h15 la manière dont ces deux candidats possibles, probables même, Hillary Clinton et Donald Trump vont s'affronter. Quelle stratégie va être adoptée par les deux camps? Il est 7h56 sur France Culture.